J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi. Cécile Coulon a beau être née en 1990, il n'en demeure pas moins qu'elle a déjà écrit 7 romans, une thèse, un recueil de poésie et un autre de nouvelles. La prolifique autrice clermontoise se lançait à l'âge de 16 ans avec Le voleur de vie, sortait en 2010 Méfiez-vous des enfants sages, son premier ouvrage publié chez Viviane Ami, et se faisait largement remarquer avec Le roi n'a pas sommeil, prix mauvais genre en 2012. 4 romans plus tard, c'est à l'occasion du dernier, Une bête au paradis, prix littéraire du monde en 2019, qu'elle est passée en terre montoise, à la librairie Caractère, pour une discussion autour de son œuvre, jeudi 14 novembre 2019. C'est au lendemain de cette rencontre qu'elle m'a accordé quelques minutes pour un entretien. Aujourd'hui, pas de rituel sonore, mais la lecture d'un poème écrit par l'invité. Dans les yeux gris de ma grand-mère qui furent bleus comme les étés paresseux et les aubes d'hiver, dans les lumières vives de fin septembre où l'automne promet le rouge des feuilles mortes aux promeneurs du dimanche, où es-tu ma chérie? Dans quel drap ton cœur ce soir se mouche? Partout où je voyage, j'emporte mes questions dans ma manche et mes larmes dans ma bouche. Dans les collines habitées par de tendres fantômes qui secouent leurs rameaux au-dessus des rivières, dans les jeux des enfants blonds abîmés par le soleil et le silence des jours longs étirés entre demain et hier, dans les plages de sable si blanc qu'on devine déjà qu'elles seront dans 10 ans des plages de poussière, où es-tu, ma chérie? Je t'attends dans toutes les dernières pages des livres que j'aime comme des amis. Je t'espère dans les halls de gare routière et dans les rayons bières des petites épiceries. Dans les cheveux plus clairs qu'une dernière minute de vie où le passé rassemble ses valises au milieu de la pièce, ce moment a déjà passé sur moi et au milieu de la pièce, il n'y avait que toi. Tu sais bien que le chagrin ne finit jamais ses phrases, qu'il nous laisse là avec un grand panier entre les bras, plein de promesses cassées les unes sur les autres, encore vivantes et mal fichues. Où es-tu, ma chérie? Je prends soin de tes rêves, je les nourris le soir, les abreuve le matin. Ils me demandent si tu reviens bientôt, si la vie est mieux ailleurs. Quand tu les retrouveras, ils auront bien grandi. Bonjour, Cécile Coulon.
Bonjour.
Ça fait un petit moment maintenant que vous écrivez, même si vous êtes très jeune. Quel regard vous portez sur cette douzaine d'années passées à écrire?
J'essaye actuellement justement de déguiser un peu ce regard et de prendre un peu de distance là-dessus pour même d'écrire dessus, ce qui est assez compliqué pour moi d'écrire sur ce que c'est qu'écrire, alors que j'adore lire des bouquins ou écouter des gens en parler. Aujourd'hui, mais peut-être que ma réponse sera différente dans un an ou deux, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt un regard assez, amusé. Parce que ces 12 ans qui sont passés, j'ai l'impression que c'était hier et en fait c'est déjà 12 ans. Parce que j'ai pas encore 30 ans et pourtant j'aurais l'impression d'en avoir 60. Et aussi parce qu'avec encore une fois beaucoup d'amusement mais aussi de stupeur, je me rends compte à quel point quand on écrit, le temps est une sorte de météo sur l'écriture, c'est-à-dire que on a beau travailler tant qu'on veut, on a beau essayer de modifier sa propre écriture au fil du temps, en grandissant et en vieillissant. Les années ont une espèce de rôle police un peu notre façon de faire, et plus on vieillit, plus on devient soi dans notre manière de travailler, dans ce qu'on écrit. Donc je pense qu'en fait maintenant je me dis, quoi que je fasse, quoi que j'essaye de faire, quel que soit le masque que j'essaye de porter, finalement le temps va jouer son rôle et faire de cette écriture ma propre écriture.
Et est-ce que vous arrivez à dire aujourd'hui comment l'écriture influe sur votre vie et comment votre vie influe sur votre écriture ?
Mon écriture influe sur ma vie parce que, d'une part, c'est à la fois mon métier et ma passion. Moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires, je ne savais pas comment j'allais le faire et j'ai commencé à le faire assez tôt en écrivant. Donc, ça fait partie intégrante de ma vie, de mon quotidien, même si je n'écris pas tous les jours, mais je pense tous les jours à ce que je vais raconter. Et peut-être aussi que ça met une... Assez paradoxalement, j'ai l'impression que je m'intéresse beaucoup aux gens que je rencontre, que j'essaie de faire attention, mais paradoxalement, ça met aussi une forme de distance, parce que j'ai toujours l'impression, même quand je viens de terminer une histoire, de penser à la suivante. Donc mes journées entières sont un petit peu Enfin, je suis absorbée pendant ces journées dans les histoires que je suis en train de raconter ou que je vais raconter. Et parfois, je sens que d'écrire instaure une forme de distance entre moi et le monde réel. Après, à quel point ma vie a une influence sur l'écriture, le fait de beaucoup se déplacer, de beaucoup voyager en France ou ailleurs, et en même temps de vouloir rester dans ma ville natale, je pense que c'est extrêmement visible, c'est-à-dire que tous mes textes parlent de ça. Parlent à travers la fiction de qu'est-ce que ça signifie rester, qu'est-ce que ça signifie partir, et est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Est-ce que dans une seule vie, on peut explorer ces deux façons d'être qui sont la fuite ou au contraire le retour? Donc je pense que c'est à ce niveau-là que ma vie influe sur mon écriture.
Et est-ce que partir, c'est nécessairement fuir?
C'est une excellente question. Je pense que tout départ porte l'idée de la fuite, même si c'est complètement inconscient ou même involontaire. Mais on peut se dire « je pars pour découvrir d'autres horizons », ce qui est une façon assez jolie de fuir. C'est, voilà, peut-être que c'est une façon optimiste de décrire la fuite.
Assez paradoxalement, là, vous venez de dire que votre écriture peut vous éloigner du réel, alors que vos livres sont tellement ancrés dedans.
Oui, parce qu'on parle de partir et revenir. Peut-être qu'il y a aussi ce mouvement-là dans l'écriture, c'est-à-dire que pour écrire une histoire, il faut à la fois rentrer en soi, réfléchir, écouter les autres, et en même temps, il faut prendre une espèce de distance au moment de l'écriture physique et dire, voilà, là, je ne suis plus personnage de mon livre, je suis autrice. Et il faut que j'ai cette distance qui est comblée par la main et le stylo ou la main et l'ordinateur. Et ensuite, une fois que c'est terminé, une bonne histoire, c'est l'histoire qui va toucher la lectrice ou le lecteur, mais d'une manière absolument évidente, efficace et durable. Donc ça va ensemble, c'est-à-dire qu'il faut prendre un peu de distance, donc s'éloigner pour bien écrire. Et avec cette distance, on arrive à faire des histoires qui touchent intimement les lecteurs.
Parce que vous jouez aussi beaucoup dans votre écriture sur les émotions, sur les ressentis des personnages.
Oui. Ils ne sont pas très longs, mes livres, en fait. Mais ils sont intenses. J'essaye de tout rassembler en très peu de phrases. Et je crois aussi qu'il n'y a jamais énormément de personnages dans mes livres. Il y en a peut-être 4 ou 5 à chaque fois, ce qui n'est pas énorme. Ce n'est pas des romans chorales. C'est plutôt des huis clos à chaque fois, et peut-être que utiliser cette forme du huis clos, ça me permet de creuser ces personnages, d'aller loin dans leur psychologie, de les raconter. Parfois ça ne passe pas par leur langage mais par leurs actes, et de, je sais pas, c'est comme déplier une carte routière. Je déplie mes personnages et puis on les voit, et tout d'un coup toutes leurs épaisseurs, toutes leurs couches successives sont visibles, aiguisées et peut-être un petit peu décortiquées.
Il y a un personnage qui revient fréquemment dans vos romans, Cécile Coulon, c'est la forêt.
Ouais.
Pourquoi ?
La forêt et la nature, en fait, ouais. De manière générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous mes romans ont été construits sur l'idée d'un lieu au départ. Pour moi, le personnage le plus important de chacun de mes livres, c'est l'endroit. Or, les endroits que je raconte et que je décris sont des endroits qui parfois ne sont même pas peuplés, qui sont des endroits naturels, qui sont des endroits ruraux, campagnards. Parce que je ne connais que ça. Je connais très mal les villes, je connais un peu les petites villes parce qu'elles m'attirent et je les trouve touchantes. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va être bouleversé par la grandeur des mégalopoles. Donc je raconte... c'est ce qui, moi, me touche et ce qui me pose question, c'est les espaces ruraux et les horizons immenses.
Dans Une bête au paradis, justement, cet espace rural est vraiment... nécessaire à l'histoire, encore une fois.
Dans Une bête au paradis, l'espace rural, c'est à la fois la ferme et le personnage principal, mais c'est aussi le paysage, c'est-à-dire que c'est une scène. Ces champs et cette grange et cette étable et cette fosse aux cochons, c'est vraiment c'est une scène de théâtre, c'est un cirque où les personnages vont être prisonniers et où et ces personnages, les lecteurs vont les regarder... même pas essayer de sortir de cet endroit, mais vont les regarder tels qu'ils sont. Il n'y a pas de secret, il y a des zones d'ombre et de lumière, mais il n'y a pas de possibilité d'échapper au regard de l'autre.
Alors que je finissais Une bête au paradis, le roman de Cécile Coulon dont nous venons de parler, j'attaquais parallèlement la bande dessinée de l'autrice suédoise Liv Strömquist.
Son nouvel album, La Rose la plus rouge s'épanouit, sorti aux éditions Rackham, est nommé ainsi en référence et hommage à un vers de la poétesse américaine féministe Hilda Doolittle, qui dans sa vie comme dans ses écrits prônait des amours libérés, lit-on sur le site de l'éditeur. Une nouvelle occasion pour l'autrice de disséquer les comportements amoureux à l'ère du capitalisme tardif et de les interroger. Elle y aborde notamment le concept d'atopos, décrit par le philosophe Roland Barthes, comme le fait de trouver quelqu'un inclassable, d'une originalité sans cesse imprévue, autrement dit, que l'autre est incomparable avec qui que ce soit, ce qui fait le propre de l'amour.
C'est une BD qui parle d'amour. Enfin, le début commence comme ça, et elle évoque un concept qui date de l'Antiquité, c'est l'atopos, c'est l'autre, et c'est aimer l'autre parce que c'est l'autre. Elle compare un peu les relations amoureuses d'antan avec celles d'aujourd'hui qui invitent plus au choix parce qu'on est dans une forme de consumérisme, voilà. Ça pour dire que là, j'ai eu un flash, et je me suis dit, mais attends, mais Une Bête au Paradis, ça parle d'amour en fait. Ouais, mais c'est pas ça la chose là, qui m'a. Je sais pas, j'étais tellement dans le roman. Oui, j'étais au cœur des histoires d'amour et des multiples qui sont dans le livre. Mais c'est pas la première chose qui m'a frappée. Et après, ce que je me suis dit donc en me plongeant dans cette idée d'atopos, c'est que c'était ça. La relation que Blanche a à la ferme, celle qu'elle a avec Emilienne et celle qu'elle a avec Alexandre, c'est que parce que ce sont ces personnes-là, cet endroit-là et rien d'autre.
Ah oui, non, mais complètement. Enfin, pour moi, quand on m'a demandé s'il faut décrire Une Bête au Paradis en une phrase, moi, c'est un roman d'amour. C'est une grande histoire d'amour qui se joue. Blanche est celle qui aime, et qui aime d'une manière tellement engagée, tellement intense, tellement forte. En fait, je pense que Blanche est quelqu'un qui ne sait pas aimer autrement qu'avec ferveur. Donc, elle aime sa terre, sa grand-mère et Alexandre, enfin son petit ami, de la même manière, avec autant de force, avec autant de rage aussi. Et c'est même pas une question de passion, parce que c'est sur le long terme. C'est quelqu'un qui, une fois qu'elle aime, n'en finit jamais d'aimer. Ce qui pour moi est assez beau, ce qui est une forme, on va dire, d'état que j'aimerais atteindre, mais qui est tellement. Dans le monde dans lequel on vit, c'est très compliqué. Parce que, vous venez de le dire, le consumérisme, c'est tellement facile aujourd'hui de se dire, il y a un truc qui me va pas, bah, je vais voir ailleurs, quoi. Or, je pense que si j'ai écrit ce livre, c'est pour dire, voilà. Et je peux pas raconter ce que va faire Blanche et dans quel état ça la met, mais de, comment dire, d'aimer l'autre parce qu'il est autre, parce qu'il est différent de soi, et justement dire qui se ressemble, ça semble pas du tout, parce que elle aime le garçon qui veut la même chose qu'elle mais pas de la même façon, c'est-à-dire ils se ressemblent pas beaucoup, ces deux personnages, mais ils s'aiment mutuellement parce que lui aussi il l'aime jusqu'au bout, hein, d'ailleurs, mais parce qu'ils sont différents, parce qu'ils seront toujours différents et parce qu'ils ont quelque chose à apporter l'un à l'autre. Or, je pense qu'on est vraiment dans un moment où ça, cette idée-là est totalement dévoyée, ça se dit, ouais, dévoyée, et où ça fait peur. Aujourd'hui, on a du mal à aimer quelqu'un parce qu'il est différent de nous. C'est beaucoup plus simple d'aimer quelqu'un, parce que, enfin, de choisir d'aimer, je ne sais pas si on choisit, mais parce que ça nous ressemble, parce que c'est confortable, parce que c'est rassurant, parce que c'est presque familial, quoi. Et de dire, bah, je vais peut-être prendre le risque d'être engagé, d'être attaché à quelqu'un, ou à une terre aussi, hein, n'importe, ou à un lieu, ou à un ami, ou une amie, qui est différent de moi. C'est un travail à faire sur soi, d'abord.
Nous sommes en compagnie d'une autrice, nous allons donc parler encore un peu de littérature et de son œuvre en particulier. Lors de l'échange à la librairie Caractère, Cécile Coulon nous confiait que son livre préféré, parmi ceux qu'elle a écrits, serait Le Cœur du Pélican.
Le Cœur du Pélican, c'est l'histoire d'Antime, qui est un jeune garçon qui est repéré lors d'une fête des voisins par un entraîneur pour faire de la course à pied, pour faire du 800 mètres, très exactement. Et donc, il va être entraîné pendant des années, et le jour où il passe les sélections pour les Jeux Olympiques, il se blesse pendant la course et il ne pourra plus jamais courir, en tout cas en compétition. Et à partir de là, donc là il est adolescent, et pendant des années, pendant 15 ans, 20 ans, évidemment son corps va changer. Il ne va jamais se remettre d'avoir été une gloire locale et sans avoir été une gloire nationale. Et puis il va se remettre à courir, je ne vais pas dire pourquoi, entre 30 et 40 ans, d'un coup il va avoir une espèce d'électrochoc, il va se remettre à courir d'une certaine manière, très différemment de la manière de son enfance, pour essayer de retrouver, ou en tout cas de trouver tout court, l'homme qu'il est vraiment. Par le sport, par l'effort, par l'abandon et la fuite, pour le coup. Je ne sais pas si Antime fuit la vie qu'il a ou si au contraire il essaye de trouver la vie qu'il a toujours voulu avoir, j'en sais rien. Ça, c'est chacun voit les choses comme il veut ou comme il sent. Mais Le cœur du pélican est mon livre. Enfin, je sais pas si c'est mon livre préféré, mais c'est mon personnage préféré parce que c'est celui duquel je me sens le plus proche et parce que je comme Blanche dans Une bête au paradis, il me semble qu'Antime il a fait tellement tellement de compromis et de compromissions qu'arrive à un moment il peut plus quoi. C'est-à-dire que c'est insupportable. C'est soit il est ce qu'il est, soit il se fout en l'air quoi. Et il choisit d'être ce qu'il est vraiment, donc en faisant beaucoup de mal aux autres, énormément de mal aux autres, et puis surtout en se détériorant petit à petit et en devenant une espèce d'organisme fondamental, nécessaire et brut. C'est-à-dire que c'est presque une forme de minimalisme physique et intérieur et intellectuel. Et je sais pas, il y a quelque chose que j'admire assez, en fait, dans ce personnage. Quelque chose dont je ne suis absolument pas capable personnellement, mais je crois que je l'admire dans l'idée d'aller au bout, quoi. D'aller au bout de cette espèce de rêve sportif et de courir, de ne jamais s'arrêter, de traverser un pays entier, et d'en être malade, quoi, d'être malade de course.
C'est par rapport à la course que vous dites qu'il vous ressemble ?
Je sais pas si c'est par rapport à la course, mais en tout cas, c'est de commencer quelque chose, et même si on le met en suspens, finalement, de passer une vie entière à faire qu'un rêve va aboutir. Alors, c'est d'une manière assez cruelle hein, dans ce texte. Hein. Mais de manière générale, moi, j'admire beaucoup les gens qui vont au bout de l'idée. Même si c'est terrible, hein, très souvent c'est terrible, mais le processus intérieur nécessaire pour qu'une vie entière soit dévolue à un rêve, à une ambition, à une... je sais pas, une espèce de... pas de fantasme, parce qu'un fantasme n'est pas réalisé, mais d'envie, une envie absolue, c'est quand même quelque chose de fou. Enfin, parce qu'en plus, je pense qu'on a tous une ou plusieurs des envies comme ça. Mais qui est capable d'aller au bout Enfin, capable, je sais pas si c'est capable, ou qui est assez courageux, au contraire lâche, pour aller au bout? C'est rare, c'est assez rare quand même.
C'est avec cette intention que vous écrivez?
J'aimerais qu'écrire devienne une forme de vie intense et engagée en soi. Je sens bien que c'est en train de se produire, mais je sens aussi qu'il va falloir des années pour que je prenne la pleine mesure de ce qui est en train de se passer actuellement. MDM.
Funky bar, and I stepped outside and smoked myself a J. number when you came into my life. I said I'm gonna get that girl no matter what I do. Well, I guess I've been in love before. Once or twice I've been on the floor, but I never loved no one the way that I love you. And it was late in the evening and all the music seeping through.
De vous poser quelques questions un petit peu plus sociétales,
ouais.
En tant qu'autrice. Parce que je suis tombée il y a quelques jours sur une vidéo où Geneviève Brissac parlait des autrices.
C'était à la radio, ça.
Ouais, ouais. Sur France Culture. Ouais. Qui parlait de l'invisibilisation des... Oh, je l'ai placée direct. Des autrices.
Bravo.
Merci. Comment vous regardez ça, vous? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que finalement, vous êtes quand même assez mise en valeur, vous, aujourd'hui.
Oui. Alors, il y a Geneviève Brissac, ce qui est très intéressant. C'est quelqu'un que j'aime énormément et qui est une très, très grande éditrice et autrice. Mais elle a ce... Elle est un peu plus âgée que moi. Et du coup, elle a aussi cette vision sur des années et des années. Moi, la vision que j'ai, elle est sur très peu de temps. Je sens bien, par exemple, à cette rentrée littéraire... les livres qui ont été mis en avant étaient des livres écrits par des femmes. C'est-à-dire que si on prend les 30 meilleures ventes, il me semble qu'il y a une bonne moitié, voire plus de la moitié, ce sont des femmes qui les ont écrits. Alors on ne peut pas dire, on ne doit pas mettre un livre en avant parce qu'il a été écrit par un homme ou par une femme. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le texte. Or, effectivement, si on regarde par contre les prix littéraires qui ont été remis cette année, les très gros prix, bon bah... À part Karine Thuil, que je félicite, qui a eu à la fois le Goncourt des lycéens et l'Interallié, bah, le reste, c'est des hommes.
Et puis les jurés, ce sont des hommes.
Et les jurés dans les jurys, ouais. Ce sont des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui était... On en a beaucoup parlé là, avec des libraires, avec d'autres auteurs et autrices, avec des éditeurs, à quel point les livres qui étaient présents dans... Comment dire? Qui étaient mis en avant dans les médias étaient des livres écrits par des femmes, mais à quel point les livres primés étaient en grande majorité, très grande majorité, des livres écrits par des hommes. Et bon, une fois qu'on a ces données-là, ces statistiques-là, puisqu'on parle de chiffres, hein, pour le coup, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que ça veut dire, que peut-être que le jour où les jurés vont changer, ça changera? Je ne sais pas, j'aimerais bien. Mais après, je crois aussi qu'il ne faut pas faire des quotas, c'est-à-dire faut pas donner un prix parce que c'est une femme. Pour moi, ça devrait être le texte qui compte.
Bien sûr.
Or, dans ces prix-là, se joue autre chose que le texte. On le sait tous, c'est pas du tout un secret. Il y a des gardiens du temple, et il se trouve que les gardiens du temple sont en très grande majorité des gardiens.
Voilà. Des gardiens blancs d'une cinquantaine d'années.
Et voilà, ben voilà. Non, mais si, mais c'est ça. Hein. Enfin, malheureusement, c'est ça. Mais en même temps, moi, je me dis, pour les mecs qui arrivent, qui sont des jeunes auteurs et à qui on dit, bon, ben en fait, les gars, vous avez été mis en avant pendant tant d'années, maintenant, vous passez votre tour. Je veux dire, ils y sont pour rien non plus. Enfin, ils écrivent et ils font leur boulot et faut, enfin voilà, faut pas non plus punir ceux qui arrivent en disant place à celles qui ont été punies depuis beaucoup plus longtemps que vous. Moi, j'aimerais bien que là-dedans, ce soit le texte, en fait. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'on ait à se poser la question. Ce qui me gêne, c'est qu'on ait à se dire... là, il y a un souci, quand même. Il faudrait que ce soit le texte qui compte. Qu'on n'ait même pas à dire qui est l'auteur ou l'autrice. On dise, voilà, c'est ce texte-là qui l'a reçu, qu'on ne dise pas la maison. Or, aujourd'hui, ça a pris tellement de place, ces questions-là.
Ouais.
Et ce que dit Geneviève Brissac, elle a parfaitement raison. Alors après, là, ce qui change aussi aujourd'hui, c'est que le monde de l'édition change aussi. C'est-à-dire que depuis 5 ans... les postes sont les nouveaux postes, en tout cas les postes nouvellement mis sur, comment dire, sur le marché du travail, sont occupés par des femmes. Des éditrices, les attachées de presse, les, enfin, voilà, les responsables en librairie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes qu'avant. Et peut-être que les choses peuvent, j'en sais rien, il faut qu'on voit ce qui se passe pendant les 10 années qui suivent. Mais il est possible que ça inverse un peu la tendance ou que ça change un peu les choses, et c'est très très bien. Moi, je suis dans une maison d'édition, il y a quasiment... Ouais, il n'y a que des femmes, quoi.
Dans les instances...
À l'Iconoclaste, il y a un gars qui est là, ouais, qui s'occupe des couvertures et tout ça, qui est très bien, mais sinon, c'est que des femmes. Les bureaux, c'est que ce soit la patronne, la patronne, ou les éditrices, ou les attachés de presse, ou ce sont... Il n'y a que des femmes.
Et ça, selon vous, ça peut influer sur l'avenir du monde littéraire, au moins
Je pense. Bah, qu'on essaye un petit peu de aussi, voilà, de... Mais ça, c'est dans tous les milieux, qu'on arrête un petit peu ce espèce de paternalisme un peu dégueulasse, un peu pervers, mais qui existe dans tous les milieux, hein, c'est pas que l'édition. Mais je sais pas, que voilà, qu'on soit enfin qu'on rentre dans un bureau et qu'on n'ait pas à se dire quel comportement il faut que j'ai pour séduire. Enfin, je veux dire, moi, le discours qui tend à dire, mais de toute façon la vie n'est que séduction, bah, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je pense pas que pour avoir un job, pour avoir un travail, pour être accueilli, on ait besoin d'être dans la séduction. Et moi, j'ai pas envie de ça. Enfin, ça me pose un vrai souci. Je crois que même le principe de la séduction me pose... Mais voilà ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui l'ont douté, qui vont dire n'importe quoi. Mais je crois que le principe de la séduction, d'essayer d'être au meilleur de soi-même pour séduire quelqu'un, tout en sachant que cette même personne, quand elle va nous découvrir, va comprendre que ce qu'elle a vu, c'était le meilleur, et que du coup, ce qui est tout simplement le quotidien n'a rien à voir avec le meilleur, et donc va être déçu, pour le coup, ça me pose un vrai problème, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si la séduction, c'était en fait vendre une version de soi-même qui n'existe pas. Et j'ai pas envie de faire ça, moi. Enfin, que ce soit professionnellement parlant, amicalement, amoureusement, c'est pas un truc qui me... Je sais pas, c'est pas. Je crois que ça me fait un peu peur. Je trouve que c'est un peu terrifiant de se dire que quand on rencontre quelqu'un, quel que soit le domaine, hein, vraiment, hein, on se dit, bah, finalement, ce qu'il est en train de me proposer, ce n'est pas lui ou elle. Ce qu'il est en train de me proposer, c'est sa meilleure version, c'est une illusion de lui-même. Et quand je veux découvrir ce qu'il y a derrière, c'est pas ça, quoi, c'est autre chose. Et je dis pas qu'il faut enlever, je sais pas, parce que peut-être que. On peut pas retirer la séduction de la vie, j'en sais rien, peut-être c'est pas drôle si on la retire, mais quand même le principe est quand même est flippant. Enfin, je sais pas, je dis ça parce qu'on discute là, mais je trouve c'est quand même un petit peu terrifiant.
Et d'où votre éloge peut-être du quotidien qu'on retrouve dans votre œuvre.
Peut-être que toute cette simplicité, peut-être que pour moi la beauté ne vient pas du fait d'essayer d'être autre chose que soi-même, ou d'être la meilleure version de soi-même, mais au contraire, d'accepter chez l'autre et chez soi-même qu'il y ait des petites choses qui ne soient pas tout à fait, esthétiques. Et que parce qu'elles ne sont pas esthétiques, on les aime. Voilà.
Je suis émerveillée par des choses d'une simplicité telle que la plupart du temps, je passe à côté, aveuglée et dérangée par le reste. Tout le reste. Alors je découvre à quel point le cœur est infidèle à la vérité, préférant poursuivre ses grandes illusions jusqu'à la fatigue extrême. Je m'éveille chaque matin étonnée d'être encore en vie, je dirige mes flèches dans le vide, espérant qu'elles touchent une cible humaine. Je suis émerveillée par des choses d'une simplicité telle que la plupart du temps, j'ose à peine les nommer, de peur que ma voix ternisse leur couleur et gaspille leur majesté. Si par malheur il arrive que je ne sache plus parler ni sourire devant un lièvre dans un bois ou un pompon sur un bonnet d'enfant, rappelez-moi la douceur de ses lèvres. Rappelez-moi la fève de ses yeux. Rappelez-moi sa caresse sincère. Rappelez-moi sa voix où tenait tout entier un nouveau monde. Je reviendrai timidement, à la manière d'un grand soleil, après 6 mois de nuit profonde.
Pour revenir à une petite dernière question autour de ce qu'on disait juste avant, est-ce que vous pensez que le mouvement, cette nouvelle vague féministe, là, tout ce qui se passe autour de ça, ça va débloquer les situations
J'ose espérer que ça débloque en tout cas la situation dans le domaine intime et dans l'éducation. Pour moi, l'endroit où il faut que ça débloque, c'est là, enfin que ça débloque, que ça change les choses, que ça les transforme, c'est dans l'éducation des plus jeunes. Filles et garçons. Qu'il y ait plus cette idée qu'un homme est un homme s'il subvient aux besoins de sa famille, oui, s'il subvient aux besoins de sa famille, s'il a des gros muscles, qu'une femme peut être, enfin, une femme même si elle n'est pas mère, même si elle s'occupe pas avec beaucoup d'attention et beaucoup de dévouement de des autres, même si on, que voilà, enfin voilà, ces espèces de, comment dire,
de modèles sociétaux,
de modèles qui sont tellement ancrés, mais qui, c'est pas qu'ils sont moches, moi je trouve ça très beau que. Enfin, je veux dire, je pense qu'un homme, que les deux, qu'on soit homme ou femme, on peut très bien prendre soin des autres, quoi. Enfin, pourquoi ce serait aux femmes de plus prendre soin des autres que les hommes, quoi. Et à l'inverse, pourquoi ce serait aux hommes d'avoir des muscles et de rapporter plus de fric à la maison. Enfin, voilà, en fait, c'est ça, moi, qui me gêne, mais parce que j'ai pas été éduquée là-dedans aussi. Moi, j'ai jamais vu ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, mon père, il faisait la bouffe à la maison et ma mère, elle rentrait tard, quoi. Donc quand vous arrivez au lycée et qu'en fait on vous dit et après on vous dit non mais par contre un jour faudra quand même penser à avoir des gamins, quand t'es une femme tu parles pas comme ça, tu te tiens pas comme ça, et non mais tu dis stop quoi, enfin en fait c'est une espèce de, comment dire, d'effet inverse quoi. Si on dit voilà, moi j'ai eu la chance d'être élevée comme mes frangins, comme mes frères, il y avait pas de différence et c'était super, et tout d'un coup on dit bah, en fait si, il y a une grosse différence quoi, parce que t'es une fille, il y a des choses que tu fais pas. Et en même temps, mais je pense que, et d'autres que tu fais, et en même temps, je pense qu'il y a des garçons maintenant à qui on dit, enfin, je pense que être un homme, un jeune homme aujourd'hui, et se définir comme un homme, ça doit pas être simple non plus à cause de ça. Enfin, en fait, ça serait bien qu'on se détende sur ces questions-là, que chacun fasse ce qu'il veut, sans blesser l'autre. Juste de faire ce qu'on a envie de faire, sans ce poids absolu de ce qu'il faut représenter aux yeux des autres et donc de nous-mêmes.
Qu'est-ce que c'est beau. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à des souvenirs,
des souvenirs,
sinon,
ouais.
J'ai une dernière question à vous poser.
Alors, c'est quoi la dernière
que question que je pose aussi généralement dans l'émission habituellement. Le Sud-Ouest, ici, les Landes.
Ouais.
Quelle image vous en aviez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous aviez une image déjà?
Bah, j'ai une image. Pour moi, les Landes, c'est le bord de la mer avec les pins, quoi. C'est ça, c'est des pins ici.
C'est ça.
Et on m'a parlé du pastis landais aussi. Il paraît que c'est bon. Donc, moi, j'ai cette image-là. Une espèce d'image d'endroit un peu... Mais parce que aussi, moi, je viens d'Auvergne, donc la mer, on l'a pas. Et je conduis pas, donc pour venir ici, c'est en train. Et pour venir en train de Clermont-Ferrand ici, c'est compliqué. Donc je suis venue ici l'année dernière dans une bibliothèque. Je suis là. Je suis allée à Lèche-Cap-Ferré. C'est dans les Landes ou pas, Lèche-Cap-Ferré?
Non, c'est en Gironde.
C'est en Gironde, donc c'est pas les Landes. Moi, en fait, l'image que j'avais, c'était des longs bords de mer avec des pins et que c'était plat. Ouais, c'est ça. Mais très beau. Très, très beau. Bah du coup là je suis arrivée, il fait pas beau, il y a pas la mer, mais
il y a la rivière.
Moi je suis toujours née au bord, c'est marrant parce que toutes mes maisons et tous les endroits où j'ai vécu c'était forcément en bord de rivière, c'est très étonnant ça. Donc c'est ça, c'est l'image, mais c'est horrible parce que c'est une image complètement cliché. Je sais pas si elle est vraie quoi, mais il faudrait que je reste plus longtemps pour savoir, et franchement, donc je resterai plus longtemps la prochaine fois.
C'est un peu vrai quand même.
C'est un peu vrai quand même.
Il y a beaucoup de pins, il y a des belles plages, et c'est quand même assez plat.
Si le rituel sonore manquait à l'appel, les trois souvenirs caractéristiques de l'émission, eux, sont bien là.
Trois souvenirs marquants. Peut-être que mon premier souvenir, qui était un souvenir de lecture, c'était lire Stephen King. Moi, j'ai appris à écrire avec la lecture de Stephen King quand j'étais enfant et adolescente. Parce que j'étais à la langue de poche sous ma couette à lire. Et c'est la première fois où vraiment j'avais ce sentiment qu'il se passait quelque chose d'incroyable dans ma vie, alors que j'étais juste dans mon lit avec un livre. Et je me suis dit, ouais, je vais faire ça toute ma vie, quoi. Donc ça, c'était mon premier souvenir, c'est ça. Et le premier livre que j'ai lu de Stephen King, c'était Salem, ça s'appelait. Après, un deuxième souvenir important... sans doute la découverte de la jouissance de la course à pied. Parce que pendant très longtemps, pour moi, le sport, c'était un truc qu'on devait faire au collège et au lycée, et qui était un peu obligatoire. Et quand j'ai compris qu'il y avait des sports qui se faisaient seuls, quand on voulait, à l'heure qu'on voulait, où on veut, ça a été un truc nouveau. Et puis surtout quand j'ai commencé à savoir courir sans douleur. Enfin, sans douleur. C'est-à-dire que je pouvais courir une heure et demie, sans que ce soit un effort. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait... il existe des espaces, des refuges absolus, qui sont des moments aussi de quand même d'extase assez intense, hein, physique. Et le troisième souvenir, sans rentrer dans les détails, la découverte du véritable sentiment amoureux. Je parle pas du désir, je parle pas de l'excitation, je parle pas de la sexualité, mais du sentiment amoureux pur, profond, solide et presque, comment dire, éternel, quoi. Et ça, pour le coup, moi, je pensais que c'était un truc qui n'existait que dans les livres. Et le jour où, le jour où ça nous arrive, je sais pas si ça arrive à tout le monde, ou si c'est pas un truc qu'on contourne quand ça nous arrive, j'en sais rien. Et là, je me suis dit, donc, finalement, les livres disent toujours la vérité.
Ce n'est pas qu'une légende.
Ce n'est pas qu'une légende, voilà. Mes trois souvenirs.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à la Villa Mirasol d'avoir abrité cet épisode. Merci à vous d'écouter Les Femmes de chez moi.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes.
We want to end gender inequality.
J'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant.
And to do this.
Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu.
We need everyone involved.
À bientôt chez Les Femmes de chez moi.